agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Émotion intense, vous l'imaginez, lorsque l'emblème bleu-blanc-noir a été hissé au sommet de la grande tour de la vieille ville, bleu comme l'espoir retrouvé, blanc comme l'âme de l'Estonie, noir comme la terre base, mais aussi noir comme les années d'oppression subies. Il était 8h30.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les trois pays baltes, vivent dans l'inquiétude, pour ne pas dire dans l'angoisse, les événements qui déchirent actuellement l'Ukraine. L'annexion de la Crimée, qu'a accompli Vladimir Poutine sans coup férir, ayant marqué, pour la première fois depuis la chute du mur, une possible fragilité des frontières en Europe. Le souvenir des souffrances anciennes a du coup ressurgi avec une acuité neuve dans ces trois pays que l'histoire n'a pas cessé de ravager de siècle en siècle, d'invasion en invasion. Certes, ils ont rejoint au début de notre 21e siècle à la fois l'OTAN et l'Union européenne, ce qui peut légitimement leur faire penser que le péril est bien moindre que celui qui est ressenti à Kiev. Il n'empêche, la récente visite de Barack Obama, président des États-Unis, en Estonie, au début de ce mois de septembre, y a été accueillie avec bonheur. Dans un palais des congrès archibondé, en présence des trois chefs d'État, il s'est écrié, provoquant une standing ovation, comme on dit, il s'est écrié « La défense de Tallinn, de Riga et de Vilnius est aussi importante que celle de Berlin, Paris et Londres. » Et il a ajouté « Vous avez perdu votre indépendance une fois, vous ne la perdrez plus jamais. » L'indépendance perdue une fois, c'était peu dire, à la lumière de la longue durée. Avec Julien Guélin, conservateur à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et chercheur associé à la Sorbonne, nous allons considérer ce que peut être le poids du passé dans ces territoires qui furent souvent prospères et plus fréquemment martyrisés par les conquêtes venues selon les saisons de l'Occident ou de l'Orient, des conquêtes dont les traces demeurent prégnantes dans les monuments, dans la démographie et plus encore dans la mémoire.
Il y a quelques fausses notes et c'est normal. Elles ne sont pas chanteuses de métier, mais hauts fonctionnaires ou diplomates. À la fin de leur journée de travail, elles prennent un cours de chant. En Lettonie, pendant les 5 décennies d'occupation et de répression soviétique, ces chants populaires traditionnels, les daina, leur ont permis de sauver leur langue, leur culture, leur religion, leur identité.
On a toujours fêté le Noël, par exemple, qui était interdit normalement dans le pays, mais on l'a toujours fait parce que mes grands-parents, ils sont chrétiens et c'est dans la famille, c'est dans la tradition.
Par exemple, se rassembler et dire, voilà, ça c'est Daina Letton, on aime les chanter, on va les chanter ensemble, ça c'était interdit. Les Russes, ils savaient très bien qu'on se réunissait le soir et qu'on les chantait. Mais ils disaient, d'accord, chanter, mais simplement pas en public.
Aux origines, les daina lettons sont des chants de paysans, très dépouillés. Des poèmes, des histoires simples, des paraboles, résumées sur 4 ou 5 vers. Il y a plus de 300 000 daina recensés et on en crée encore.
Pour nous les Lettons, ces chants, c'était le seul moyen de sauver notre culture et notre identité. C'est l'âme de mon peuple, dont l'histoire et le destin ont été dominés par les occupations allemandes, russes, suédoises, polonaises.
Julien Guélin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre un reportage sur les chants lettons, un reportage de Gilles Rabin et Yann Moine qui avait été diffusé sur France 2 à la télévision le 11 mai 2004. Il y a beaucoup de pays où la quête de l'indépendance, la défense de la liberté s'est exprimée notamment par des chants, par la musique, a été portée par des chansons, mais voilà un cas particulièrement topique, me semble-t-il.
Oui, c'est particulièrement important pour les peuples baltes, qu'on a souvent qualifié de peuple du chant, pour lequel souvent les littératures nationales et les langues sont arrivées relativement tard pour affirmer l'identité nationale, ont été relativement visibles tardivement, alors que les chants nationaux sont venus véritablement à partir du XIIe siècle, le symbole de l'identité nationale. Ils sont liés à ces immenses festivals du chant organisés régulièrement en Estonie, en Lettonie, en Lituanie.
Tous les 4 ans, tous les 3 ans,
ça dépend des périodes, où des milliers de choristes se réunissent, comme le reportage l'évoquait, après avoir répété et chantent ensemble les mêmes chants dans une véritable communion devant quasiment une grande partie du pays, si on inclut tout à fait exactement les émissions de télévision. Ces festivals de chants sont nés dans les années 1860-1870, au moment de la naissance des mouvements nationaux, pour affirmer l'identité nationale de Baltes contre les aristocraties qui les opprimaient, contre les dangers de russification, et ont continué tout le long du XXe siècle à être effectivement un jalon pour affirmer leur identité, pour se réunir et pour garder leur identité nationale.
Et pendant les 4 décennies ou plus d'occupation, on peut peut-être utiliser ce mot, d'occupation soviétique dans les pays baltes, ces chansons ont été interdites ou au contraire, elles ont continué de cheminer en profondeur?
Elles ont continué à cheminer en profondeur, c'est intéressant à montrer parce que comme le reportage évoque effectivement un mouvement de résistance. Peut-être vos auditeurs ont-elles aussi en tête tous ces leaders soviétiques ou communistes qui se faisaient photographier à côté de personnes en costume populaire.
Khrouchtchev, par exemple.
Khrouchtchev, tout à fait. Oui, tout à fait, quand il est venu dans les pays baltes. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça a été aussi instrumentalisé aussi par l'Union soviétique avec des chants soviétiques se mêlant aux chants populaires. Donc, il faut bien voir que ces festivals du chant, ces chants populaires ont été aussi le lieu d'un rapport de force aussi entre la volonté de défendre cette identité et la volonté aussi des puissances occupantes ou des élites de les instrumentaliser.
C'est bien l'entrelac des passés que nous allons avoir à évoquer, des mémoires. Nous parlions là de la musique, on peut trouver aussi le même entrelac quand on considère l'art plastique. Je veux dire qu'il y a eu récemment en Estonie, enfin depuis quelques années, une sorte de guerre des statues que je voudrais que vous évoquiez, car elle me paraît tout à fait topique, certaines rappelant les combats aux côtés des Allemands et d'autres, la vaillance des soldats russes venus, entre guillemets, délivrer les pays baltes de l'occupation nazie.
Bien sûr, alors c'est extrêmement intéressant, même si c'est un phénomène beaucoup plus récent et ça rentre tout à fait en lien avec ce qu'on appellerait les lieux de mémoire qui nous sont familiers en France, puisque évidemment cette guerre des monuments, des symboles, elle a commencé dès le début du XXe siècle, puisque les capitales baltes étaient des villes largement germaniques et donc il y a eu une dégermanisation avec la disparition des statues, des monuments rappelant l'époque allemande, puis disparition des statues rappelant l'époque tsariste, puis reconstruction de monuments voulant affirmer l'identité nationale, disparition à nouveau pour certains d'entre eux, ou maintien, je pense à la statue de la liberté à Riga, dans un environnement extrêmement surveillé, puis évidemment affirmation de tout un décorum soviétique avec ces statues qu'on peut observer aujourd'hui dans un parc qui a fait polémique en Lituanie, le Grūtas parkas, où toutes les anciennes statues soviétiques étaient rassemblées.
Et à enfin, Tallinn, la capitale.
Alors à Vilnius, ça c'est effectivement Lituanie et à Tallinn, évidemment, l'événement que vous évoquiez, c'était évidemment la disparition de cette statue évoquant l'armée rouge et que le gouvernement estonien ne voulait pas détruire, mais simplement repousser du centre-ville pour le mettre à l'extérieur, un peu plus loin à l'extérieur de la ville, et qui vraiment a réveillé les passions entre une population d'origine russe pour laquelle elle symbolisait la libération du fascisme et finalement les sacrifices énormes qui avaient été consentis et finalement la remise en cause d'une certaine histoire qui avait été imposé à l'Estonie soviétique et la volonté de l'Estonie nouvelle de faire disparaître ces symboles qui rappelaient une occupation sanglante et qui avait gardé évidemment un très mauvais souvenir et traumatisant.
Alors, les vétérans russes organisaient ce qu'on a appelé sur place la ronde de nuit pour empêcher qu'on déplace la statue. Et puis il y a une symétrie, puisqu'il y a aussi un personnage qui est apparu aux yeux des Russes comme symbolisant à l'excès la solidarité avec les nazis, avec Waffen-SS, un monument dédié à la guerre d'indépendance de 1918 avec une croix de la liberté qui comporte en son cœur un symbole qui est apparu sulfureux, puisque c'est un bras surmonté de la lettre E qui tenait un glaive qui avait été autrefois imaginé pour les combattants de l'indépendance, nous y viendrons, entre 18 et 20, mais qui avait été repris par les Estoniens engagés dans les Waffen-SS. Et l'historien Marek Tam, qui parle très très bien le français, qui est un des meilleurs représentants de la nouvelle école historiographique en Estonie, expliquait que c'était un symbole très ambigu. Et il ajoutait qu'il regrettait qu'au début du XXIe siècle, on érige des monuments selon une esthétique totalitaire. Ça vous paraît juste ?
Oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu exagéré de parler d'esthétique totalitaire, mais ça rentre tout à fait dans ce que vous évoquiez sur cette espèce de réutilisation de symboles nationaux dans des perspectives présentes. Vous citiez avec justesse le fait que ces statues ont parfois été érigées au moment de la première indépendance et comment on réutilise ces signes nationaux pour finalement un autre propos et pour affirmer quelque chose de neuf pour lequel parfois il y a des liens, effectivement, des nuances à faire en général. Mais c'est vrai que ce qui est problématique, c'est effectivement, et c'est pour ça que le rôle de l'historien ou de personnes comme Marek Tam ou d'autres historiens contemporains, c'est de revenir à l'origine de ces signes pour éviter cette surinterprétation de couches de signes, là où les Russes parleront d'usage fasciste, nationaliste, et où les Estoniens pourront effectivement réinvoquer d'autres symboles en les détournant dans une perspective évidemment nationaliste.
Alors avant, Julien Guélin, d'en arriver à ce XXe siècle qui a été si troublé, qui a martyrisé si puissamment, si dramatiquement ces trois pays baltes, je voudrais que nous revenions en arrière sur la longue durée. Peut-être pourriez-vous auparavant, chacun le saura naturellement parmi nos auditeurs, mais faites comme s'il ne le savait pas précisément, nous dire quelle est la dimension de ces trois pays baltes, leur démographie aussi, et quelle est la part d'autochtones et de Russes en particulier,
oui,
ou d'autres
tout
nationalités.
À fait, effectivement. C'est vrai que c'est souvent intéressant de le rappeler, parce que souvent on a tendance, surtout en France, à vouloir minimiser, voir ces États comme des États minuscules. Donc il ne s'agit pas ni du Luxembourg, ni de petits États. Par exemple, on peut dire que la Lituanie a une superficie, une population quasiment comparable à l'Irlande, 65 000 km², 2,9 millions. L'Estonie est un peu plus petite, avec 1,2 million d'habitants, 43 000 km². Donc c'est quand même des États qui sont des petits États qui symbolisent souvent en Occident l'idée de petits États, avec d'un côté le côté Belgique de l'Est, pour reprendre des comparaisons, des métaphores qui ont été faites à l'époque, donc des États vertueux, donc symbolisant l'équilibre européen, l'intégration des institutions européennes, et à l'inverse, souvent parfois aussi qualifiés de Serbie du Nord, pour symboliser des États nationalistes qui pourraient remettre en cause la paix européenne.
Alors, vous évoquez l'Estonie au nord, la Lituanie au sud, et entre les deux, il y a aussi la Lettonie, capitale Riga, le grand port.
Bien sûr, la grande métropole de la façade baltique, avec une superficie analogue à la Lituanie, une population un peu plus importante, 2,9 millions d'habitants, mais qui symbolise vraiment le problème des minorités, du moins qui le symbolisait, avec une part de la population très importante de Russes, hein, puisqu'il faut savoir que quasiment au début de l'indépendance lettonne, on était quasiment à 50-50%. Et une des grandes craintes des Lettons, c'était de perdre la majorité dans le pays.
Là, vous parlez de l'indépendance des années 1990 commençantes. Alors, en Lituanie, il n'y aurait que à peu près 6 à 7% de russophones, et en Estonie, près de 30%.
C'est ça, l'Estonie est comparable, même si la proportion est moins importante en termes de problématiques avec l'Estonie, avec une forte population russophone, tandis que ce qui a caractérisé la Lituanie, c'est la capacité à garder une grande majorité de population d'origine lituanienne, et où donc le problème des minorités est moins important, si ce n'est de temps en temps quelques problèmes liés à l'histoire avec la minorité de Pologne.
Je relève que le maire de Riga est russe.
Tout à fait, oui, ça symbolise bien effectivement la problématique et les complications qui se posent actuellement au niveau, et symbole aussi d'une population aussi qui s'intègre dans la nouvelle Lettonie.
Alors maintenant, nous allons prendre notre élan loin en arrière, avant de nous concentrer bien sûr sur le 19e et surtout sur le 20e siècle. L'histoire de ces trois pays baltes remonte très loin en arrière. Ils ont été marqués très tard, d'ailleurs, par le paganisme, la Lituanie en particulier. C'est le dernier grand royaume resté païen en Europe avant l'évangélisation. Écoutez ce reportage sur les rituels païens en Lituanie, un reportage de Gilles Rabin et Yann Moine qui a été diffusé sur France 2 le 1er juillet 2004 avec la place essentielle conférée à l'ambre. Qui fait rêver.
Bien sûr. Longtemps, la très catholique Lituanie a été une terre païenne qui célébrait Perkūnas, le dieu de la foudre et du feu. Gemina, la déesse de la terre, et Jūratė, la déesse de la mer. Au bord de la mer Baltique, Perkūnas avait construit un palais d'ambre pour Jūratė, qui y vécut sans histoire, jusqu'au jour où elle tomba amoureuse d'un jeune et beau marin-pêcheur.
Jaloux, Perkūnas a détruit le palais d'ambre où vivait Jūratė, la déesse de la mer. Ce palais d'ambre a éclaté en millions de petits morceaux dans toute la mer Baltique.
Depuis, on trouve de l'ambre sur les plages. Au Moyen-Âge, un kilo d'ambre valait un kilo d'or. Aujourd'hui, son prix dépend de sa couleur, blanc, jaune, cognac, bleu ou vert.
L'ambre blanc est le plus âgé. On l'appelle l'ambre roi. C'est le plus cher. Mais l'ambre vert est le plus jeune, entre 5 et 10 millions d'années. Et l'ambre le plus âgé, 40 millions d'années.
France Culture, Concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Une vraie richesse, n'est-ce pas, l'ambre? Les historiens de l'Antiquité en parlent. Pline l'Ancien évoque la route de l'ambre, et il raconte que Néron aurait envoyé un chevalier romain au pays de Succion, qui serait l'ambre jaune, et que cet homme put rentrer à Rome en rapportant ses richesses. D'ailleurs, l'archéologie confirme cela.
Oui, tout à fait. Bon, alors, si effectivement, l'archéologie nous montre des peuples relativement anciens, mais vous avez tout à fait raison, c'est grâce à l'ambre et à ce récit que, pour la première fois et relativement tardivement, des sources écrites occidentales font mention de l'existence de ces peuples. Et c'est grâce à ça que nous connaissons l'existence de ces fameux peuples, des Aesti. Fameux, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il permet de relier les peuples actuels à un passé immémorial, mais qui, évidemment, renvoie à un peuple dont nous connaissons fort peu de choses. Il faudra attendre le 7e, le 8e siècle, le 9e siècle pour avoir des sources écrites un tout petit peu plus développées.
On a tout de même un texte fameux de Tacite, le grand historien romain, dans son livre « De Germania » sur la Germanie, qui donne cette description de ces pays. En revenant à la mer, on trouve sur les côtes orientales de la mer Suévique, c'est comme cela qu'on appelait la Baltique à l'époque, les nations des Estiens qui l'abordent. Leur habillement et leurs usages sont ceux des Suèves, leur langue se rapproche de celle des Bretons, ils honorent la mer des dieux. La marque de cette religion, ce sont des figures de sangliers qu'ils portent à la main. C'est déjà Astérix, pardonnez cette observation de Potache. C'est là leur arme et leur défense unique avec ce signe, un adorateur de la déesse, marchant sans rien craindre au milieu même des ennemis.
Un récit fascinant. À quel peuple Tacite fait-il référence? Sur quoi se font-ils? Fait-il des raccourcis? A-t-il observé ou a-t-il eu des renseignements précis sur les coutumes de ces peuples? C'est un mystère que les historiens ne pourront sans doute pas percer, mais qui effectivement nous donne brutalement une fenêtre sur les coutumes et sur les vies de ces peuples au 1er siècle. Une caractéristique classique de ces états, le manque de sources et l'éclairage brutal à un moment grâce à un voyageur, une source célèbre qui brutalement nous apprend des choses et pour lesquelles les historiens doivent relier ces sources entre elles avec difficulté et tracer une histoire et rendre des comptes souvent à la population d'aujourd'hui.
Alors galopons, si vous voulez bien, Julien Guélin, comme le firent les chevaliers teutoniques, et évoquons à bride abattue ce premier millénaire en arrivant rapidement au second, pour progressivement le paganisme est refoulé à partir du nord ou à partir surtout de l'Ouest.
Dès le premier Moyen-Âge, avec les Scandinaves, il ne faut pas oublier évidemment l'apparition des Vikings qui traversent ces provinces baltiques pour aller fonder, de manière mythologique ou réelle, on ne le sait, le premier État russe à Kiev, qui finalement laisse une partie de leurs traces dans les pays baltes, avec l'intégration de ces États à l'Occident, au niveau du commerce, mais aussi les premiers missionnaires. Mais évidemment, vous l'avez mentionné, l'apparition du christianisme se fait par le fer et par l'apparition des chevaliers teutoniques au XIIIe siècle, qui brutalement vont imposer la féodalité, le christianisme et un nouvel ordre politique à des populations qui, en dehors des Lituaniens, ne vont pas pouvoir se défendre.
Il y a eu en Lituanie un État tout à fait florissant, en plein Moyen-Âge, un puissant grand duché de Lituanie, avec une rencontre avec la Pologne, bien sûr, et cela fait partie de la fierté contemporaine des Lituaniens.
C'est la grande différence avec les Lettons et les Estoniens, c'est la capacité des Lituaniens à avoir résisté à la pression teutonique et avoir réussi à créer un État, un véritable empire qui va pouvoir s'étendre sur une grande partie de la Biélorussie, de l'Ukraine actuelle jusqu'à la mer Noire et finalement leur donner un statut de puissance politique en Europe orientale jusqu'au XIVe siècle où une union personnelle avec la Pologne va être créée en 1389. Puis une union plus importante à Lublin, la fameuse union de Lublin en 1569. Et il faut bien rappeler à nos éditeurs que même après cette union, il s'agit d'une, comme on disait à l'époque, d'une république polono-lituanienne avec uniquement un souverain commun, mais encore un État lituanien qui garde sa diplomatie, son administration, son commerce et qui va progressivement disparaître face à la puissance de la culture polonaise. Ce qui est fascinant, c'est qu'une certaine manière, la Lituanie crée un immense empire païen, mais pour la population lituanienne, peu à peu, on va revenir à un statut qui est relativement similaire à ceux des populations lettonnes et estoniennes, c'est-à-dire au 15e, 16e siècle, des populations qui sont sous le servage d'aristocraties terriennes, intégrées dans l'Europe d'alors, faisant des profits énormes grâce à l'exportation du blé, du commerce des fourrures, de la cire, mais qui oppriment de manière relativement forte, mais conforme finalement jusqu'au 15e, 16e siècle à ce que vivaient aussi d'autres populations du reste de l'Europe, des populations indigènes qui sont les grandes oubliées, qui n'apparaissent pas dans les sources ou de manière détournée, puisque les seules sources écrites que nous avons, ce sont les chroniques des conquérants qui rappellent l'histoire politique, mais qui évoquent très peu la vie de ces populations paysannes.
On sait que l'histoire est rarement écrite par les vaincus. C'est une donnée générale qu'il y ait des paysans qui nous ont peu parlé, et puis des élites qui sont plus ou moins marquées par le féodalisme. Vous évoquez des ressemblances et des différences. Il faut d'ores et déjà, Julien Guélin, marquer que l'on parle des pays baltes en général, mais qu'il y a de grandes différences de l'un à l'autre. D'abord des différences de langue, puisqu'on ne parle pas du tout la même langue, contrairement à ce que certains croient. En Estonie, on est proche du finno-hongrien.
Exactement, oui, c'est une langue qui appartient au groupe finno-hongrien, donc avec le finnois et le hongrois, tandis que le letton lituanien forme un groupe à part de langues baltiques, différent du slave, et qui fait partie des langues indo-européennes. Évidemment, ce terme de pays balte, c'est évidemment un terme problématique, un terme qui est relativement récent, né au début du XXe siècle, et qui symbolise, il faut le rappeler à nos auditeurs, évidemment, on parle de langue balte, donc qui renvoie uniquement au letton lituanien. En français, le premier sens du terme du mot balte, c'est riverain de la Baltique. Donc ça renforce un peu la confusion pour nos auditeurs, parce que lorsqu'on crée ce terme devient populaire au début des années 20, les pays baltes, c'est essentiellement l'Estonie, la Lettonie, alors que la Lituanie, qui a une façade baltique beaucoup plus restreinte, va apparaître beaucoup plus tardivement comme un pays balte dans notre langue française et notre vision de la France. Vous voyez, c'est quand même un territoire qui a une certaine complexité et pour laquelle il faut regarder attentivement les différences qui existent.
Vous savez, c'est une habitude des historiens, c'est presque pour eux un pont aux ânes que de dire « c'est plus compliqué que vous ne le croyez
». Oui, tout à fait.
Reste à revenir ensuite à une certaine simplicité. Une différence actuelle, c'est que les Lettons et les Estoniens sont entrés dans la zone euro, alors que ce n'est pas encore le cas des Lituaniens. On peut gager d'ailleurs que sur les pièces qu'ils vont fabriquer, comme tous les autres, on trouvera l'effigie de Ringaud d'As, de Mindaugas, de tous les grands ducs du duché de Lituanie. Mais avançons, la fin du XVIIIe siècle est marquée par par le partage de la Pologne, et on l'évoque moins souvent aussi par la mainmise des tsars sur les pays baltes.
Bien sûr, c'est la fameuse fenêtre sur l'Europe conquise par Pierre le Grand sur les Suédois, le bon vieux temps suédois pour qui les Baltes ont gardé une certaine tendresse puisque les Suédois étaient arrivés à la fin de l'ordre teutonique au XVIe siècle et s'y sont maintenus jusqu'au XVIIIe et ont gardé l'image, peut-être à tort, d'un État qui avait plus protégé les populations locales face aux aristocraties. Mais évidemment, le XVIIIe siècle, c'est la fin de cette période. L'arrivée des Russes sur le littoral baltique et surtout pour les populations estoniennes et lettonnes, le retour de privilèges illimités pour les aristocraties terriennes germaniques et donc l'apogée du servage au XVIIIe siècle avec des paysans qui n'ont même pas le droit de posséder des biens matériels. D'où effectivement cet antagonisme relativement fort qui existe entre les aristocraties germaniques, les germano-baltes et les populations indigènes. Il faut bien le rappeler à nos éditeurs, jusqu'au début du XXe siècle, le principal ennemi, la principale opposition des populations estoniennes et lettons, ce sont cette aristocratie allemande et le danger de cette intégration à une civilisation germanique qui est repoussée par les populations. À la différence, bien sûr, des Lituaniens, pour lesquels on a dit évidemment que la question se pose plus vis-à-vis de la Pologne et de la culture polonaise.
Oui, inquiétude vers l'Est, inquiétude vers l'Ouest, cela est évidemment constant. Dans ce, au cours de ce 19e siècle, où les pays sont sous l'emprise des Russes, des tsars, vu d'Europe, ce sont des pays qui restent assez barbares, en tout cas mal connus. Ce voyageur qui s'appelait M. Denriet est représentatif, puisque après avoir été rendre visite en Lettonie, il écrit « Les Lettons sont le peuple le plus malheureux que j'ai encore vu. Race dégénérée, à l'époque où le mot de race reste encore d'emploi constant, race dégénérée et persistante, de peu d'intelligence, accablée de mépris. L'homme et la femme sont sans jeunesse, leur physionomie est marquée d'apathie et d'abrutissement. » Vision oui. assez sombre. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi les romantiques regardent vers ces pays comme vers une sorte d'abstraction où ils aiment loger leur imagination, parfois un peu débridée. Il y a une fameuse nouvelle de Prosper Mérimée qui s'appelle Lochis, l'histoire d'un ours qui avait fécondé une femme avec des résultats terrifiants. Il l'évoque lui-même dans un message à Ivan Tourguenieff, qui est ici lu par Renaud Marie. C'est une émission de France Culture. Le 8 janvier 1972.
Lorsque j'étais à Fontainebleau, chez une grande dame que vous savez, on lisait des histoires terribles, fantastiques et autres. J'ai pris l'engagement d'en faire une plus atroce, et je me flatte de n'avoir pas trop mal réussi pour le choix du sujet, au moins. Une dame est rencontrée par un ours qui la viole. Elle a un enfant, très beau, garçon, un peu velu, très robuste, qu'on élève bien, mais qui est toujours un peu bizarre. Ce monsieur a son pucelage, lit des livres de métaphysique et est amoureux d'une petite coquette blanche et rose comme une petite chatte près du poil. Il ne se rend pas bien compte des sentiments qu'elle lui inspire. Est-ce physique ou platonique? Il se marie et la mange. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne connaît pas l'auteur de ses jours. La conception est laissée dans l'ombre et les lectrices timorées peuvent même croire que ces bizarreries ursines tiennent à un regard. Le plus drôle, c'est qu'en ruminant cette belle histoire, j'avais entre les mains une grammaire lituanienne. Je suis devenu très fort en jmoud, zomaïtis, et j'ai mis la scène en Lituanie. La couleur locale abonde. Si je savais faire des vers, j'aurais fait un poème, mais il me semble qu'il y a quelque chose de poétique dans ce mélange d'humanité et de bestialité. Je cherche un titre, je voudrais quelque chose comme « Le Trouveur » ou « Le Dénicheur de Miel »,« Medvide ». Mais ce que j'aimerais mieux, c'est un mot lituanien signifiant « ours ». J'ai vu des Lituaniens, pas un seul ne sait un mot de jmoud. En savez-vous ?
Le mot lituanien signifiant « ours », Julien Guélin, c'est Lochis qui donne son nom à la nouvelle de Prosper Mérimée.
C'est extrêmement intéressant cette nouvelle de Prosper Mérimée parce que ça montre effectivement l'intérêt grandissant en Occident pour ces langues qui, vous l'avez dit, qui étaient un peu méprisées, mises de côté. Et la découverte finalement que ces populations, loin d'être si mystérieuses, si barbares, sont quand même des populations avec des traditions extrêmement anciennes vivantes. C'est à l'époque où Ferdinand de Saussure, les linguistes allemands découvrent la parenté de la langue lituanienne avec ce qui aurait été la fameuse langue indo-européenne commune.
On serait au lieu primordial de l'indo-européen avec une attention évidemment spécifique.
Le grand linguiste français Meillet disait « Si vous voulez découvrir comment parlaient les Européens il y a des millénaires, venez en Lituanie et parlez à un paysan lituanien. » C'est un raccourci, naturellement.
La nouvelle de Mérimée a été publiée en 1869 et on est à l'aube de cette seconde partie du 19e où on voit en effet se développer c'est aussi dans la ligne de 1848, on voit se développer les identités européennes et notamment dans les pays baltes et bien sûr avec l'appui des linguistes et des grammairiens qui ont joué un rôle similaire dans toutes ces nations qui se sont réveillées à ce moment-là.
Oui, c'est le deuxième stade où on découvre, où on donne une certaine légitimité à ces langues et progressivement, avec l'abolition du servage, avec la création d'une couche de paysans riches et modérés, d'une petite bourgeoisie qui s'empare de ces découvertes pour en faire effectivement des éléments d'une identité nationale. Évidemment, le détournant de l'usage initial, puisque les aristocrates qui découvrent ces langues le font dans une vision romantique, avec la volonté de ne pas remettre en cause évidemment l'ordre social qui existe, alors qu'évidemment, le but initial de ces paysans et de sa bourgeoisie, c'est la volonté d'affirmer cette dignité et finalement d'affirmer leur identité pour obtenir au moins une autonomie culturelle, linguistique, économique et plus tard peut-être l'indépendance.
On en trouve encore la trace, Julien Guélin, dans les modes d'enseignement des trois pays baltes aujourd'hui, dans les manuels scolaires, dans la grammaire.
Oui, il y a une attention extrêmement forte qui est apportée à la langue. Vous le savez, pour la période présente, la connaissance de la langue lettonne est un élément fondamental pour devenir citoyen letton. Donc, ces langues ont été structurées, définies tardivement par des commissions, enfin tardivement naturellement pour nous occidentaux à partir du 19e et surtout du 20e siècle, mais sont devenues l'emblème de l'identité nationale, d'où cet amour de ces langues et cette volonté d'étudier aussi ces daïna qui symbolisent aussi l'état ancien de ces langues et le passé de ces peuples.
Les poèmes daïna, et il y a actuellement encore dans ces pays, notamment en Lettonie, des conflits vifs pour savoir si on doit contraindre la population russophone à bien parler le letton, et peut-être la symétrique est-elle vraie?
C'est effectivement vrai. Bon, évidemment, toutes les populations baltes étaient de leur côté obligées d'apprendre dans le passé la langue, on dira aujourd'hui de l'occupant, mais en tout cas la langue des élites avant l'allemand.
Donc tous ceux qui ont plus de 50 ans parlent russe.
Parlent russe, comme avant dans le passé, on parlait parfaitement allemand ou polonais, et qui était la langue majeure des échanges et de la vie culturelle et politique à l'époque.
Alors aujourd'hui, en Lettonie, les 35% de russophones, où en est-on quant à cette querelle, quant à ce débat? Doivent-ils forcément apprendre le letton? On voit bien à quel point cette interrogation est chargée de conséquences politiques.
Évidemment, pour les Russes qui, dès le début des années 90, en ont fait un critère de violation des droits de l'homme, là où les représentants des organisations internationales reconnaissaient que ce n'était pas le cas. Mais évidemment, le letton, l'estonien et l'ituanien sont, comme dans tous les États, les langues que l'on apprend à l'école. Et donc, la majorité des jeunes générations russes ou d'autres origines apprennent cette langue à l'école et savent la maîtriser parfaitement. Le problème qui se pose, c'est évidemment pour les populations plus âgées, mais c'est un problème qui progressivement se résout avec une grande majorité de la population qui s'intègre, qui apprend les langues, qui fait sa vie, avec évidemment des affrontements au sein des populations, des différences de vision, mais ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on commence un peu à parler de russo-baltes, comme on parlait dans le passé de germano-baltes, pour montrer qu'il y a finalement une identité régionale russe qui se fait, avec des Russes qui ont leur vie dans ces états et qui finalement, pour rien au monde, n'aimerait revenir peut-être dans la Russie.
Au moment où va éclater la Grande Guerre, on a vu se développer considérablement la conscience langagière et politique des populations qui ne sont pas russes dans ces trois pays. Et il y a un grand poète dont il faut faire entendre la voix, c'est Oscar Miloš. Ne pas confondre d'ailleurs avec son cousin polonais qui, deux générations plus tard, a obtenu le prix Nobel. Oscar Miloš, son poème « Chant du chevalier Dzindram » qui a été publié en 1906 dans le recueil « Les sept solitudes » et qui est lu ici par Claude Aufort sur France Culture le 14 juin 1990. Ce poème, métaphoriquement, exprime fort bien, me semble-t-il, les douleurs d'une très longue histoire si tourmentée et souvent marqué de malheurs si cruels.
Comme les feux de joie ou d'alarme sur les montagnes de la nuit, le cri de réveil de l'aigle des solitudes ou des midis sur les haffes couleur de larmes, la froide lumière de sommeil. Ainsi soyez-vous, âme jeune au vol éblouissant, Vierge impériale enivrée de chants, de vins et de soleils cruels et rieurs, déesse barbare, douce et terrible, dans l'encens des foules futures, fumée de pleurs et de sueurs. Sous les feuilles pourries de vos années mortes, mon cœur, dans la boue des chemins oubliés, dorment les eaux blanchies des amours et des amitiés, des pires et des meilleurs. Comme des pierres jetées au fond d'un lac, nous sommes. Comme des parias lépreux parmi les hommes, comme le pain empoisonné de la pitié. La honte a craché sur notre blason, comme les vieux corbeaux chauves dont l'horizon est l'abri pour l'hiver, et la chair des cadavres, le nid, sont les jours de la vie, solitaire agonie. Comme la fuite des feuilles jaunies, dans les rouges bises des couchants d'automne, est le son de votre nom.
Comme des pierres jetées au fond d'un lac, comme des feuilles mortes, il y a là un mélange, Julien Guélin, de nostalgie et de détermination, me semble-t-il, à faire vivre, pas seulement par la littérature, la volonté d'un vouloir vivre ensemble.
Le personnage de Miloche est absolument fascinant. On peut en dire quelques mots. Un aristocrate donc d'origine lituanienne dont la famille vivait dans une propriété perdue en Biélorussie actuelle, dans un des restes du grand-duché de Lituanie, qui part complètement polonisé comme la majorité de l'aristocratie, qui avait oublié finalement son identité lituanienne, qui part en France, qui devient un compagnon de Verlaine, des plus grands poètes de l'époque, et qui brutalement, au moment de la Première Guerre mondiale, redécouvre son identité lituanienne, redécouvre l'histoire de son pays et offre ses services au nouvel État lituanien pour devenir le premier ministre de Lituanie en France.
L'ambassadeur.
Voilà, on disait à l'époque, oui. Il est le premier ministre de Lituanie en France et qui va symboliser pour tous les Français des années 20 et 30 et même plus tard, pour un grand nombre de nos poètes, je pense, et d'artistes, je pense à Laurent Terzieff, la Lituanie en France. Alors évidemment, c'est un personnage à part, particulier, mais qui, comme vous le dites, symbolise bien cette évolution. Vous avez cité son cousin prix Nobel de littérature. Lui, ça sera la partie de la famille qui, dans les années 20, va choisir la Pologne et qui va choisir de rester, de devenir un Polonais. Et ça montre bien les problèmes qui sont posés à ces élites en 1918.
Après tout, ils sont peut-être fidèles au grand-duché polono-lituanien qui, il y a très longtemps, avait dominé la région. Mais puisque vous évoquez la suite de l'activité de Miloche, ça nous conduit aux années 20. Et entre-temps, il y a ce grand moment essentiel, là comme ailleurs, de la guerre de 14-18, puisque les habitants des pays baltes se trouvent tout naturellement enrôlés dans les armées du tsar contre les Allemands. Et cela, évidemment, est de grandes conséquences, d'autant plus que certains obtiennent, notamment les Lettons, obtiennent de constituer des corps militaires à part qui se couvrent de gloire.
Tout à fait, c'est les fameux tirailleurs lettons qu'on peut découvrir justement sur cette statue de la liberté en plein centre de Riga que nous évoquions tout à l'heure et qui symbolise cette identité lettonne et cette volonté de créer une nation en marche, pourrait-on dire, qui parlera beaucoup aux Français, qui rappellera un peu les soldats de l'an 2 allant défendre la patrie contre l'invasion allemande. Il faut rappeler aussi que ces tirailleurs lettons seront accompagnés d'artistes qui feront des merveilleuses peintures, des écrits. Il faut aussi, on a parlé des Dinah, mais il faut bien sûr évoquer rapidement la naissance et le développement de toutes ces littératures nationales qui vont obtenir leurs lettres de noblesse au 19e et au début du 20e siècle. Et la guerre de 14-18 va être le moment, le miracle par lequel vont naître trois États que personne n'attendait, contrairement à la Pologne ou à la Bohême, puisque personne ne soupçonnait qu'il y aurait un effondrement conjoint à la fois de l'Empire allemand et aussi de l'Empire russe.
C'est une sorte un peu de divine surprise pour tous ceux qui avaient porté le rêve lointain de l'indépendance dans les années qui ont précédé la Grande Guerre. Et voici effectivement que ces trois pays apparaissent et que du même coup, de nouvelles générations y prennent un intérêt, un attachement plus grand pour la civilisation européenne. Ils affirment leur appartenance à celle-ci et leur rôle à la Société des Nations, par exemple, est à cet égard significatif.
Tout à fait, ce sont des États qui vont vouloir s'intégrer à la civilisation européenne, évidemment par attrait, par goût lié au passé, par évidemment volonté aussi de sécurité pour obtenir un contrepoids, et on voit les rapports avec le présent, pour obtenir un contrepoids face à la menace soviétique. Mais loin d'être des États du rideau de fer, comme souvent on a gardé comme seul souvenir de ces États, ce sont des États qui vont devenir extrêmement dynamiques, qui vont s'intégrer complètement dans la vie culturelle européenne, même sportive, on pourrait dire. Certains de nos auditeurs peut-être ont quelque intérêt pour le basket et se rappellent que les Pays-Baltes ont cette tradition d'être très forts dans ce sport qui symbolise leur identité nationale. On l'a vu récemment dans les championnats organisés, mais aussi au niveau...
Excellente mention.
Voilà. et au niveau évidemment culturel, mais aussi de la vie économique, mais aussi de la vie de la Société des Nations, puisque certains Estoniens, comme par exemple Karl Robert Pusta, l'ambassadeur d'Estonie, vont être les premiers à participer avec Aristide Briand au premier projet d'Union européenne et à symboliser finalement une Europe basée sur le droit, l'arbitrage et finalement une certaine communauté.
D'où un certain éloignement de la Russie qui avait pu apparaître, on l'oublie, avant 1914, parce que la Russie semblait se libéraliser quelque peu en termes politiques et se développer en termes économiques comme apte à porter un développement des pays baltes. Ce n'est plus le cas dans l'entre-deux-guerres. Les pays baltes apparaissent du même coup comme pouvant durer. Il semble que ce côté de réalité saisonnière qui les caractérisait s'estompe.
À la fin des années 20, progressivement, alors que les doutes étaient immenses dans les opinions occidentales à l'époque sur leur capacité à survivre économiquement, les petits Danemark du Nord, comme on les appelle, exportant beurre, bois, se démodernisant avec des économies, des systèmes de coopératives, deviennent de plus en plus des pays qui sont assimilés aux pays nordiques et scandinaves. Et là où les voyageurs que vous évoquiez tout à l'heure traversaient les pays baltes entre Berlin, Königsberg et Moscou...
En se bouchant le nez.
En se bouchant le nez, en passant vite dans des paysages luthériens qui leur évoquaient peu de choses. Dorénavant, les voyageurs comme Jules Romain tournent autour de la Baltique en visitant la Suède, la Finlande, les Pays-Baltes et prennent conscience ou reprennent conscience de ce passé hanséatique, de ce passé viking, de ce passé nordique et de l'unité de la mer Baltique.
Et du même coup, il y a un intérêt renaissant pour la diversité des religions qui peut apparaître pour les visiteurs du temps comme finalement porteuse de liberté. Il faut rappeler qu'à cet égard, les trois pays baltes sont très différents. Constamment, dans cette émission consacrée à ces pays baltes aujourd'hui, nous évoquons le fait qu'ils sont parfois trop assimilés sous notre regard, alors que leur diversité frappe.
Tout à fait. Alors, il y a effectivement une division relativement importante. Donc, au-delà, finalement, des populations russes qui sont restées orthodoxes ou vieux croyantes, des anciennes populations juives, la majorité des populations indigènes sont séparées entre, d'un côté, le catholicisme, qui caractérise la Lituanie et la Latgalie, la province orientale de la Lettonie, parce que sous influence polonaise, parce qu'ayant subi la contre-réforme. Donc les visiteurs des pays baltes verront toutes ces églises blanches du XVIIIe siècle symbolisant ce poids du catholicisme. Fascinant d'une certaine manière, puisqu'on a évoqué leur attachement au paganisme. Mais finalement, ce peuple neuf au niveau de la religion va voir dans la religion aussi un symbole de défense de son unité nationale des XIXe siècle contre la Russie, d'où le rôle joué par l'Église, comme en Pologne, dans la défense de l'unité nationale, à la différence, évidemment, des Estoniens ou des Lettons, qui, eux, restés sous domination suédoise, appartiennent à l'église luthérienne et donc sont des protestants. D'où aussi une évolution et une certaine fracture, il faut bien le reconnaître, entre la partie nord et la partie sud au niveau des identités, vu le poids des religions et des cultures attachées.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Nous devons en arriver maintenant, Julien Guélin, à ce moment où tombe la foudre, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique qui va aboutir au début de la Seconde Guerre mondiale à livrer d'abord ces pays aux soviets, au bolchevisme, puis ensuite avec l'opération Barbarossa et la guerre entre le nazisme et les Russes, aboutir à une occupation également dramatique par les Allemands, avant que reviennent les Soviétiques. C'est cette histoire-là hachée dans la douleur qu'il faut évoquer. Quant à l'arrivée pour la première fois des Soviétiques, écoutez ce témoignage de Ugnė Karvelis. C'est une écrivaine lituanienne qui commente la stupeur qu'elle a éprouvée à ce moment-là, petite fille. C'était sur France Culture le 13 octobre 1991.
Ça a été un grand choc. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais tout l'ordre du monde était perturbé. Et le monde dans lequel j'étais née s'est effondré ce jour-là. Je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Mais ça a été la fin de, non seulement de l'indépendance lituanienne, mais de tout un système social et de toute une conception éthique, mettons. Car c'est très curieux, quelles qu'aient été les failles ou les erreurs de la Lituanie indépendante, c'était un système profondément éthique et c'est le seul pays au monde que je connaisse, enfin, où l'hymne national parlait non pas seulement des héros de la terre, de la gloire, etc., mais demandait aux enfants de la Lituanie d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité.
Oui, alors le personnage de Nukervalis est aussi fascinant, il faut le dire en un mot. Sa famille représente un peu ces hommes nouveaux, comme on pourrait dire, qui ont symbolisé la République lituanienne ou la République balte des années 20-30 avec un père diplomate.
Ils ont surgi comme une classe nouvelle.
Ces fils de paysans, pensons à Gambetta, pensons au début de la Troisième République, c'est exactement ça, avec l'école publique obligatoire, la création de nouvelles couches sociales qui ont la chance pour la première fois dans l'histoire de ces peuples d'accéder à des postes importants, qui partent dans les meilleures universités occidentales et qui doivent créer ex nihilo à leur retour une école, une université, un service diplomatique. Et c'était le cas du père d'Nukervalis qui va jouer un rôle important. Et Nukervalis symbolise cette nouvelle génération qui n'a pas connu l'Empire russe, qui n'a pas connu les passés, qui se croit européenne et qui brutalement, comme vous le dites justement, voit la foudre s'abattre et d'un seul coup, le retour finalement d'un pays, d'une civilisation qu'on avait oublié pour les nouvelles générations. C'était un pays complètement étranger, fermé. Et alors, d'un seul coup, l'esprit soviétique et les civilisations soviétiques arrivent.
Quel rappel, de fait, oui. La brutalité que cela implique. Et ces premières années soviétiques, ces premiers mois de l'occupation soviétique ont laissé déjà des souvenirs terribles, d'autant plus que les soviétiques vont très vite souhaiter s'en prendre aux élites, à celles que vous évoquiez, qui ont surgi dans l'entre-deux-guerres, nouvelles élites. On se rappelle bien sûr le crime de Katyn, où systématiquement les Russes ont tué plusieurs dizaines de milliers d'officiers polonais. Sur une échelle plus petite, à cause de la dimension du pays, on trouve aussi la même chose.
Tout à fait, et on trouve la même chose avec des déportations qui, évidemment, pour des petits États, vont être absolument traumatisantes, massives. Hein. On parle au moins de 20 000, 25 000 personnes pour chacun des États qui sont déportés brutalement quelques jours avant l'invasion allemande. Et là où le sentiment anticommuniste ou la peur du communiste régnait, elle va être confrontée avec ces mouvements massifs à une répulsion terrible vis-à-vis du monde soviétique, mais aussi du monde russe. C'est pendant ces années que, définitivement, l'ennemi principal cesse de devenir l'allemand ou le pan-germanisme, mais le russe.
C'est là qu'on retrouve cette querelle des statuts que nous évoquions tout à l'heure.
Tout à
celle
fait.
Qui pouvait évoquer effectivement la fidélité à la Russie et celle qui pouvait faire surgir le souvenir de la période de rapprochement avec l'Allemagne nazie, ce qui ne cesse pas de travailler en profondeur, ces pays baltes.
Oui, c'est évidemment le drame, c'est qu'évidemment à cette conquête soviétique succède immédiatement une conquête nazie qui va être encore plus traumatisante. Naturellement, plus pour une des minorités qu'on n'a pas encore beaucoup évoquées, cette minorité juive qui va disparaître dans sa quasi-totalité en quelques mois suite à l'action des Einsatzgruppen, mais aussi d'une partie de collaborateurs locaux. Et c'est là qu'on trouve cette tache noire, ce problème qui marque l'histoire des États baltes encore aujourd'hui et qui les a disqualifiés longtemps en Occident, celui d'un antisémitisme profond.
Comme en Pologne, autant qu'en Pologne ?
Alors, c'est vrai qu'effectivement, pour l'historien, lorsqu'on évoque, et c'est l'intérêt de l'accès des sources, l'antisémitisme était beaucoup moins développé auparavant. Les populations juives étaient à part, mais il faut savoir que dans les années 20 et 30, par exemple, les pays baltes ont été fameux pour leurs droits des minorités, par les protections qu'ils donnaient. Il n'y avait pas eu de pogrom. Et brutalement, il y a cet antisémitisme qui éclate et qui aboutit à la collaboration de plusieurs milliers de Lituaniens, de Lettons, d'Estoniens, aux côtés des troupes allemandes. Alors, il faut bien sûr citer aussi les milliers de Baltes aussi qui sont juste entre les nations qui ont aidé aussi les Juifs, ceux qui ont refusé la domination allemande, faisant attention à la nuance, à la complexité de cette période et ne caricaturons pas trop vite cette période.
Et puis ces peuples ont été déchirés entre l'obligation, on peut dire les malgré nous aussi, de porter soit l'uniforme soviétique de l'armée rouge, soit l'uniforme allemand.
Oui, il y a cette complexité aussi du fait que, évidemment, les Allemands vont essayer de jouer sur cette sympathie initiale des populations baltes, qui va vite disparaître, puisque les Baltes qui pensaient pouvoir obtenir à nouveau une certaine indépendance des Allemands découvrent vite les horreurs du système nazi. Et les Allemands, et c'est ça qui est assez intéressant, vont avoir beaucoup de mal à recruter des volontaires baltes baltes dans leur légion SS, par exemple, n'y arriveront pas du tout avec les Lituaniens, alors que pourtant ils avaient pu nourrir quelques espoirs vu ce qui s'était passé au début de la guerre.
Même par la force.
Même par la force. Ils y arriveront un peu plus en Lettonie et en Estonie, ça sera très très limité. Derrière les apparences du volontariat, on a de véritables conscrits, de véritables malgré nous, qui sont obligés de rentrer dans ces forces allemandes, qui sont officiellement chargés de défendre le pays contre le retour de l'Union soviétique, mais qui suscitent peu d'intérêt, du moins en Estonie, à cette époque.
Ils suscitent plus d'intérêt à Vichy, comme en témoigne cette archive de Radio Paris. C'est le compte-rendu des fêtes en Estonie à l'occasion du 26e anniversaire de la libération de l'Estonie. 26e anniversaire par rapport à la fin de la Grande Guerre. Cette archive évoque le combat entre des SS estoniens et les Russes. On est le 3 mars 1944. Vichy jette ses derniers feux, si l'on peut dire.
Exactement.
Il y a quelques jours, l'Estonie a fêté le 26e anniversaire de sa libération du bolchevisme. À cette occasion, à Reval, ont eu lieu diverses manifestations politiques. Mais la population estonienne a aussi pensé aux absents. D'abord aux morts, à ceux qui sont tombés frappés selon le procédé bolchevique d'une balle dans la nuque. Il y a en effet peu de cités importantes qui ne comptent de nombreuses tombes de ces malheureuses victimes. Puis, c'est aussi vers les absents que sont allées les pensées des familles estoniennes. Les absents, c'est-à-dire ceux que Staline a fait déporter parce qu'ils craignaient leur valeur personnelle, parce qu'ils ne voulaient pas que l'élite de ce petit peuple si courageux puisse voir et expliquer ensuite les véritables desseins dévastateurs du bolchevisme. Mais la plus belle des cérémonies, le plus beau cadeau fait au peuple estonien pour l'anniversaire de cette libération, c'est encore les volontaires estoniens de l'ASS qui l'ont donné à leur peuple. C'est aux Estoniens précisément qu'est revenu l'honneur de reconduire les troupes soviétiques qui s'étaient aventurées jusque-là. Et ils l'ont fait en ce jour anniversaire avec un brio qui montre à la fois la valeur de ces soldats et leur volonté farouche de libérer leur pays des poussées soviétiques.
Oui, alors on l'a évoqué, et donc finalement c'est un bel exemple de propagande de l'époque qui montre le fait comment on récupère à l'époque, dans le régime de Vichy, l'exemple des états-balles pour la lutte contre le bolchevisme. Évidemment, la réalité est vraiment différente de ce que peut évoquer, mais c'est un beau témoignage du détournement de la propagande, de la réutilisation à travers les images, à travers les photos. Et vous comprenez aussi que naturellement, la propagande après 1944 de l'Union soviétique pourra aussi légalement l'utiliser pour finalement gommer toutes les nuances et la complexité et conspuer ces régimes anciens d'indépendance liés au fascisme.
Alors cette présence des soviétiques dans les pays baltes entre 1945 et le début des années 1990 a naturellement marqué beaucoup ces pays et aujourd'hui cette marque se lie un peu partout. Mais elle est en concurrence avec les nouvelles forces d'une liberté capitaliste, une liberté...
Oui, tout à fait. Pour dire simplement, toute cette histoire que nous avons évoquée a été oubliée. L'histoire pour beaucoup d'Estoniens, de Lettons, Lituaniens, commence en 1940 avec le grand traumatisme et tous les aspects, les nuances que nous avons évoquées ont souvent, pour la plupart naturellement, et pour une majorité, ont souvent disparu. Et souvent, l'histoire contemporaine, même tout court, commence à partir de ce traumatisme et à la nécessité de lutter et de rappeler le souvenir de ces occupations soviétiques et la nécessité d'en faire prendre conscience pour eux, aux opinions occidentales, des souffrances qu'ils ont connues. D'où tout le débat sur peut-on mettre un signe égal entre nazisme et stalinisme, qui évidemment parfois suscite des réactions vives chez nous, mais qui pour les Baltes est un débat qui existe. D'où l'utilisation du terme génocide aussi, qui est employé souvent pour la période soviétique, qui souvent évidemment suscite des réactions aussi très vives aussi en Occident, mais qui symbolise tout simplement le traumatisme d'une partie de la population pour lequel c'est son identité qui a été mise en jeu. Derrière l'usage peut-être nettement exagéré, évidemment, du terme.
Donc on ne peut pas comprendre les réactions actuelles des pays baltes devant la crise ukrainienne si on ne met pas au cœur de la réflexion cette longue histoire que nous venons d'évoquer dans cette émission, Julien Guélin.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais pensons simplement pour faire une comparaison avec notre réaction vis-à-vis de l'Allemagne dans les années 50, 55, 60. Nous sommes seulement 25 ans après la fin de l'Union soviétique et des traumatismes que beaucoup de personnes ont connus. Et évidemment, cette angoisse qui renaît de façon presque parfois irrationnelle face à la politique de Poutine, cette crainte immense de voir la Russie revenir, symbolise, au-delà des analyses géopolitiques, de savoir si ça correspond à une réalité ou pas, ça symbolise de la meilleure manière, finalement, les peurs qui sont restées enfouies, les traumatismes psychologiques, on peut le dire, qu'ont laissé cette occupation et le désir absolu de rester dans l'Europe et surtout de ne pas retrouver cette période qu'on veut absolument oublier, ne plus jamais revivre.
Quoi qu'il en soit, dans la ligne de ce que vous dites, on ne peut qu'être sensible au fait que, au moment où les pays d'Europe centrale se libèrent du joug soviétique, les Pays-Baltes sont un peu en pointe et marquent une force, une énergie qui a frappé les contemporains, notamment en Lituanie avec Landsbergis. On avait évoqué à l'époque le 23 août 89, c'était le 50e anniversaire du pacte germano-soviétique. Il s'est constitué une grande chaîne humaine reliant les capitales avec 1,5 million d'habitants qui ont marqué de la sorte leur détermination avec à la bouche une version balte du fameux poème de Paul Fort « Si tous les gars du monde vous laissent donner la main », etc.
Et l'histoire continue, puisque vous l'avez peut-être vu ou entendu, les Catalans, à leur tour, ont repris l'exemple de la chaîne balte pour créer leur propre chaîne, pour essayer de défendre leur identité. Mais surtout à l'époque, ça a été une merveilleuse manifestation symbolisant de certaine manière l'esprit balte. Les chants, on se donne la main, symbolisant finalement un certain pacifisme, le refus d'une certaine politique réaliste et la volonté d'affirmer leur identité. C'était finalement la meilleure réponse, et celle a été au parfois la vision caricaturale que pouvaient avoir encore ces États ou ces populations dans l'esprit russe ou dans certaines représentations qui persistaient en Occident. Et ça a naturellement beaucoup fait pour la cause balte en Occident et pour faire avancer l'idée qu'ils devaient retrouver leur indépendance et rappeler qu'ils étaient libres avant 1939.
Oui, ce rappel était indispensable et ils l'ont porté avec beaucoup de courage, non seulement moral, mais beaucoup de courage physique. Je pense aux manifestations de l'époque où de vrais risques étaient courus par ceux qui y participaient.
Et oui, où il y a eu des morts, effectivement, c'est l'épopée, je dirais, lituanienne de 1990 et de 1991 qui a montré la détermination de ces populations à vouloir avancer et à revenir dans l'Europe.
On comprend dans ces conditions que Barack Obama, affirmant qu'il protégerait, que l'OTAN protégerait autant ces pays que l'Allemagne, la France ou l'Angleterre, que ces propos étaient accueillis avec attention, émotion et en somme gratitude.
Bien entendu, c'est les paroles que les Baltes voulaient entendre. Évidemment, pour l'historien, on se rappellera que de telles paroles ont été prononcées au début des années 30, au milieu des années 30. Et il faut espérer qu'évidemment, elles ne resteront pas des paroles vides et que la solidarité affirmée entre les Occidentaux et les Baltes n'aura pas à se manifester à nouveau.
Ne terminons pas cette émission sur une tonalité trop morose. Merci d'être venu à ce micro, Julien Guélin. Votre thèse, naguère, avait porté sur la France et les petits États baltes, réalité balte, perception française et ordre européen, entre 1920 et 1932. Vous nous avez montré comme cette période était importante. Cette thèse est en ligne intégralement.
Tout à fait, oui. Il suffit de taper mon nom sur un moteur de recherche bien connu, on la trouvera très facilement.
Vous nous promettez apparaître prochainement une histoire des pays baltes, cher Armand Collin. Je voudrais également rendre hommage à Philippe Pershock, les États baltes dans le système européen, 1985-2004. Être européen et le devenir, chez Peter Lang, 2014, c'est tout récent. Il pose exactement dans son sous-titre la question que nous avons traitée au cours de l'heure de cette conversation. Naturellement, vous trouverez une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site avec des références, des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter, télécharger cette émission et l'emporter dans vos bagages quand vous rendrez visite à Riga, à Tallinn ou à Vilnius. Samedi prochain, je vais peut-être vous surprendre, nous parlerons du chien, cet animal domestique dont les relations avec l'homme sont de grand intérêt sur la longue durée. Si vous en doutez, j'essaierai de vous en persuader. « Bonjour mon chien », c'est le titre d'une chanson de Damia. Et je recevrai pour en parler le grand spécialiste de ces relations tourmentées et précieuses entre les hommes et les chiens. Ce grand spécialiste, c'est Damien Baldin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Sylvain Richard, avec Pierrick Monsigny à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et, pour les Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Et dans un instant, comme chaque samedi, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question avec ses invités éminents, puisque ce sont des économistes.